If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Je t'aime. Moi non plus, je peux pas me passer de toi. Viens, on va prendre une douche.
Oh oui, mille fois oui.
Salut, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Tout s'explique. Aujourd'hui, on parle d'absence de relations sexuelles dans le couple. La vie de couple, ce n'est pas toujours l'autoroute du bonheur. Des hauts, des bas, parfois, souvent peut-être, plus de relations sexuelles. Une situation rencontrée par Caroline Cruz, conseillère conjugale et familiale, thérapeute de couple depuis une trentaine d'années. Elle est aussi l'auteur d'une BD avec Benoît Battard. Elle s'appelle « Il faut qu'on parle » aux éditions du Rocher. Cette conseillère revient sur une consultation d'un couple qui affirme ne plus avoir de relations sexuelles.
Ce couple vient en disant, voilà, on n'a plus de relations sexuelles, ma femme ne me... Là, c'est la plainte de l'homme, hein. Ma femme ne me désire plus, ça dure depuis des mois et je ne sais plus quoi faire. Moi, je la désire, elle ne me désire pas et ça pourrit nos relations. Ça vient dire quelque chose des difficultés du couple. Alors, la première chose à faire, c'est de faire prendre conscience à celui qui se plaint que l'autre ne vit pas non plus les choses de manière extrêmement heureuse. Hein. C'est assez douloureux et assez difficile pour cette femme, ou inversement ça peut être pour l'homme, de se, entre guillemets, refuser à son conjoint. C'est-à-dire qu'on l'aime, on est bien avec lui, on a envie de lui faire plaisir, on a envie de le rendre heureux et on se trouve bloqué. Plus que le couple dont je parle dans le livre, et ce couple-là est plus récent à mon esprit, mais ce qui était intéressant, c'était de voir que l'homme était extrêmement étonné d'entendre sa femme dire que ça la rendait elle aussi malheureuse, cette situation. Et d'une certaine façon, ça l'a un peu apaisé. Ah bon, mais tu me le disais pas, et moi je croyais que tu t'en fichais, ou que tu étais indifférente. Donc cette prise de conscience-là, elle est importante. Ensuite, ce qu'on est en train d'essayer de dégager, c'est comment ils se sont construits l'un et l'autre dans leur identité d'homme et de femme. Là, il s'avère que cet homme a pas extraordinairement confiance en lui et que faire l'amour, c'est une manière de se réassurer sur l'amour que sa compagne lui porte. Elle a vraisemblablement un peu de mal avec son image de femme, avec la féminité, et elle a besoin, comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans des, même si c'est un peu caricatural dans les relations hommes-femmes, elle a besoin d'être un peu plus écoutée, protégée, en sécurité, elle aussi, parce que je pense qu'ils partagent tous les deux ce manque d'estime de soi. Et elle a besoin d'être rassurée avant de pouvoir être suffisamment en confiance pour faire l'amour. Et c'est un système qui finit par se bloquer parce que lui demande quelque chose qu'elle ne peut plus lui donner. Et il y a une perte de confiance réciproque dans eux-mêmes et dans le couple. Donc ça, c'est à travailler. Et c'est à travailler aussi en fonction des raisons pour lesquelles leur identité d'homme et de femme a été peut-être un peu maltraitée dans leur enfance.
On interprète des choses du partenaire, de la partenaire, mais on ne les a pas exprimées. Et en fait, cette information n'est pas toujours bonne.
Oui, et c'est même assez fréquent dans ce domaine-là particulièrement. Parce que quand il n'y a pas eu de relation sexuelle depuis un certain temps, ça peut arriver, des couples qui viennent, on n'a plus de relation sexuelle, mais vraiment très très peu depuis des mois. C'est absolument évident que tous les bons conseils qu'on donne, par exemple dans les magazines, à savoir, encore une fois, utiliser des choses pour pimenter la relation, ou même aller passer un week-end en amoureux à Venise, ça met une pression incroyable. Il faut à tout prix réussir. On passe un week-end à Venise, si on n'arrive pas à faire l'amour, là, c'est une véritable catastrophe. Donc, c'est une anticipation de l'échec, c'est une fabrique de la déception. Les couples, contrairement à ce qu'on peut croire, avec les injonctions actuelles autour d'une sexualité libérée, enfin véhiculée par la génération des 68ards, les gens ne se parlent pas forcément beaucoup de la sexualité. Il y a encore une forme de tabou, il y a encore une forme de réticence à dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et du coup, les gestes peuvent être aussi très mal interprétés. Par exemple, quand il y a ce blocage depuis un certain temps, l'un des deux peut avoir envie d'avoir un geste tendre qui soit pas forcément un préambule à l'acte sexuel stricto sensu. Mais il y a une forme de réticence. Il se dit, oui, mais si je fais cette caresse, il ou elle va s'imaginer que je cherche, je suis intrusive, je cherche à la forcer ou à le forcer. Et l'autre, inversement, se dit, bah, j'aurais bien envie, oui, qu'il me prenne dans les bras, ou qu'il me caresse la tête, ou qu'il me masse le dos, ou que sais-je. Mais si je me laisse aller, il va imaginer que oui, ça y est, je suis prête, ou je suis prêt. Et donc, il vaut mieux. Et c'est un blocage qui s'auto-alimente. Et c'est aussi des erreurs d'interprétation et de communication.
Est-ce que l'absence de relations sexuelles est forcément triste ou négative ?
La sexualité humaine, elle a ça d'intéressant que tout est possible. Justement, c'est pour ça que c'est très difficile ces formatages, aussi bien de tabous autour de la sexualité que d'obligation à avoir des orgasmes à répétition ou des choses qui peuvent être véhiculées par la pornographie. Oui, un couple qui n'a pas de relations sexuelles peut être un couple. Il ne s'agit pas seulement de couples vieux qui trouvent d'autres manières d'être ensemble qui les rendent heureux. Même des couples jeunes peuvent se construire autour d'une absence de sexualité. Tout va bien à condition que que l'un et l'autre y trouvent leur compte et que d'une certaine manière le contrat tient. Parce que moi je rencontre quand même, je pense aussi à un jeune couple qui s'est construit sur un évitement de la sexualité. Elle, parce que elle avait été soumise dans son enfance à, de la part de sa mère qui l'emmenait voir son amant dans la chambre d'hôtel où elle le voyait, elle avait été soumise à une sexualité très, trop excitante, en plus elle n'avait pas le droit de le dire, donc il y a quelque chose de douloureux autour de la sexualité, d'assez violent, et lui avait été élevé par une mère qu'il considérait comme un petit garçon il ne l'avait pas aidé à devenir un homme. Donc tous les deux avaient un rapport à la sexualité extrêmement compliqué et ils ne s'étaient pas choisis par hasard et c'était effectivement un évitement de la sexualité qui leur a convenu. C'était un espèce de bébé couple un peu asexué. Bon, ils faisaient peut-être l'amour une fois, je ne sais pas quoi, tous les trois mois et ça leur convenait parce que justement ça ne les inquiétait pas. Et la question a commencé à se poser quand ils ont voulu avoir un enfant. Parce que ils sentaient bien qu'il y avait quelque chose de pas possible à l'idée de, on va avoir un acte sexuel uniquement pour faire un enfant. Qu'est-ce que ça représentait pour l'enfant? Qu'est-ce que ça voulait dire? Et petit à petit, ils ont été obligés de travailler chacun sur ce que c'est qu'être une femme, ce que c'est qu'être un homme et comment on peut ou pas essayer de remettre du désir, de la vie et un peu d'érotisme dans ce couple, oui.
En conclusion, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, alors très général, puisque les auditeurs sont tous particuliers, s'ils se trouvent dans cette situation de ne pas avoir de relations sexuelles et d'en souffrir, qu'est-ce que vous pourriez leur dire ?
Ce que pourrais leur dire, c'est qu'ils soient un peu bienveillants à leur égard et à l'égard de l'autre. C'est-à-dire qu'ils évitent évidemment le registre du reproche, de la culpabilisation, du « c'est ta faute et c'est pas la mienne », qu'ils se disent « bon, on a une difficulté, on va essayer ensemble de voir comment on peut la surmonter ». C'est se parler, sans parler, se dire que bon, s'ils ont envie de continuer à vivre ensemble et s'ils souffrent de cette situation, qu'ils aillent voir un professionnel qui peut les y aider, un thérapeute de couple. Pourquoi pas un sexologue aussi, s'il considère que vraiment c'est ça le point nodal, mais un sexologue, encore une fois, qui ne leur donne pas uniquement des conseils
sur les bougies parfumées.
Sur les bougies et les sextoys. Mmh. Mais moi, je veux dire, il y a des sexologues extrêmement compétents, mais ils peuvent aller voir en tout cas quelqu'un qui les reçoive ensemble, qui les écoute et qui les aide aussi à dépasser cette difficulté.
Merci à Caroline Cruz, conseillère conjugale et familiale, thérapeute de couple. Si ce podcast vous plaît, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast ou la plateforme que vous utilisez. Cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Portez-vous bien.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.